Chapitre 11 Versets 1 à 34 L'ordre de Dieu dans la création, dans l'assemblée. L'apôtre conclut la partie précédente de son épître par l'exhortation « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ » verset 1. Les chapitres 11 à 14 de cette première épître aux Corinthiens contiennent des instructions de la plus haute importance pour le peuple de Dieu tout au long de la période chrétienne, dans la mesure où ces chapitres considèrent les croyants comme réunis en un seul lieu dans une localité quelconque, et ils placent devant nous l'ordre de Dieu pour de tels rassemblements. Au milieu de la confusion de la chrétienté, où l'ordre de Dieu a été si largement mis de côté et a été remplacé par un ordre humain, c'est une très grande miséricorde d'avoir un récapitulé inspiré de la pensée de Dieu pour les siens quand ils se rassemblent. En refusant toute association avec quelque forme de rassemblement que ce soit qui mette de côté l'ordre de Dieu, il est toujours possible de suivre les directions apostoliques et de se rassembler dans une humble obéissance à la parole de Dieu selon la simplicité de l'ordre divin. En se référant aux versets 17 et 18, 20, 33 et 34, et aux versets 23, 26, 28, 34 et 35 du chapitre 14, on verra très clairement que ces chapitres considèrent le peuple de Dieu lorsqu'ils sont réunis ensemble dans une localité donnée quelconque. Premièrement, en 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16, nous sommes instruits sur l'ordre de Dieu dans la création. C'était nécessaire comme introduction à l'ordre de Dieu dans l'assemblée. Deuxièmement, en 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34, nous apprenons que le Seigneur lui-même est le grand centre de ralliement pour son peuple et que le motif le plus élevé qui puisse rassembler le peuple de Dieu est le souvenir de lui dans la célébration de la scène. Nous sommes instruits quant aux conditions et à la conduite qui conviennent à cette sainte circonstance. Troisièmement, en 1 Corinthiens 12, nous sommes instruits sur l'action souveraine de l'Esprit-Saint qui distribue des dons dans le corps de Christ, à chacun en particulier comme il lui plaît, et que notre rassemblement, en assemblée, est gouverné par le grand fait que les croyants sont membres du corps de Christ et que le Saint-Esprit est la puissance de tout ministère. Quatrièmement, en 1 Corinthiens 13, nous apprenons que l'Esprit qui anime le corps de Christ est l'amour. Il est le ressort de tout vrai ministère. Cinquièmement, en 1 Corinthiens 14, nous sommes instruits quant à l'exercice du ministère dans l'Assemblée, pour que tout soit dans l'amour, pour l'édification et selon l'ordre divin. Les instructions de la première partie de l'Épître nous guident quant à notre comportement individuel. À leur suite, nous avons des instructions quant à l'ordre de Dieu dans la création, pour nous placer dans de justes relations les uns par rapport aux autres en tant qu'hommes et femmes. Cela nous prépare à prendre justement notre place les uns par rapport aux autres dans l'assemblée. Verset 2. Approbation d'avoir gardé les enseignements de l'apôtre. Citation de l'Écriture. Or je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, et de ce que vous gardez les enseignements comme je vous les ai donnés. Fin de citation. Selon la grâce qui se plaît à reconnaître tout ce qui est de Dieu dans les saints, l'apôtre commence cette nouvelle division de l'épître avec une parole d'approbation. S'il y avait beaucoup de choses à condamner dans l'assemblée, l'apôtre peut quand même les louer de ce que, dans toutes leurs questions, ils se souvenaient de lui et gardaient les ordonnances ou enseignements qu'il leur avait donnés. Versets 3 à 12 L'ordre de la création. Verset 3 Citation de l'Écriture. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Fin de citation. Avec cette parole d'approbation, l'apôtre passe à des directives qui supposent l'existence d'un autre grave désordre parmi les croyants de Corinthe. Apparemment, les femmes sortaient de leur place de soumission tandis que les hommes cédaient leur place d'autorité. Pour corriger ce désordre, l'apôtre s'y prend d'une manière fréquente dans l'Écriture pour régler les questions. Pour apprendre les principes impliqués dans telle question ou telle difficulté, on est ramené à la première occasion où ces principes apparaissent. Ici, une question ayant surgi quant à la position relative des hommes et des femmes, nous sommes ramenés à l'ordre établi initialement dans la création. Il est vrai qu'en Christ, dans la nouvelle création, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle. Galates 3, verset 28. Dans l'ancienne création, comme dans l'Assemblée, ces distinctions existent encore. Le christianisme, aussi grand que soient les privilèges ordinaires qu'il confère, ne met pas de côté l'ordre de la création. Et tant que les chrétiens sont dans ces corps mortels, sur une scène où ces différences existent, ils sont responsables d'observer cet ordre. L'apôtre affirme, comme la première grande vérité en relation avec la création, que le chef ou tête de tout homme, c'est le Christ. Verset 3. Il ne s'agit pas ici d'une référence à la place de chef ou tête que Christ a par rapport à l'Assemblée. Cela affirme et revendique que Christ, étant devenu homme et étant entré dans la scène de la création, a nécessairement pris la place de prééminence et d'autorité sur l'homme. En outre, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef du Christ, c'est Dieu. Cette dernière affirmation n'amoindrit aucunement la divinité du Fils. Dans ce passage, il n'est pas question de la place de Christ dans la déité, mais de la place qu'il a prise dans la création. Ceci est donc l'ordre simple et beau de la création. Le chef ou tête de la femme, c'est l'homme. Le chef ou tête de l'homme, c'est Christ. Et le chef ou tête de Christ, c'est Dieu. La source de toute iniquité, de tout désordre et de la misère qui s'ensuit dans ce présent siècle remonte à la chute, lorsque la femme a été séduite et est sortie de sa place de sujétion à l'homme, et que l'homme a failli dans sa position d'autorité sur la femme. Vis-à-vis de l'ordre de la création, tant l'homme que la femme ont failli. Mais Christ est entré dans la scène de la création, et avec lui il n'y a pas, et il ne peut y avoir, de défaillance. Du début à la fin de son chemin merveilleux, il fut l'homme parfaitement soumis, faisant toujours la volonté de Dieu, même jusqu'à la mort. Tandis que la chute de l'homme a rempli la scène d'iniquité et de misère, la perfection de Christ apporte l'ordre et la bénédiction à ceux qui se soumettent à lui en tant que chef ou tête, et finalement elle introduira les nouveaux cieux et la nouvelle terre quand Dieu sera tout en tous. Dans le cercle chrétien, on devrait jouir de la bénédiction de l'ordre de la création. Si la femme était soumise à l'homme, et si l'homme exerçait une autorité juste sur la femme, étant lui-même soumis à Christ, Christ est celui qui a été parfaitement soumis à Dieu comme homme, il y aurait l'ordre au lieu de la confusion et la dépendance l'un de l'autre au lieu de l'anarchie. Versets 4 à 6. Citation de l'Écriture. Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore sa tête. Car c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Fin de citation. L'apôtre montre ensuite la portée de cet ordre de la création sur les hommes et femmes chrétiens. Il fait référence à l'exercice de la prière et de la prophétie, où, d'une part, nous parlons à Dieu, pour nous-mêmes et pour d'autres, et d'autre part nous parlons aux hommes de la part de Dieu. En rapport avec le fait de prier ou de prophétiser, il parle de la tête de la femme couverte en signe de sujétion et de la tête de l'homme découverte en signe d'autorité. Si l'homme prie ou prophétise la tête couverte, il se déshonore, car il professe aller vers Dieu dans la prière pour d'autres ou parler aux hommes de la part de Dieu. Et en même temps, il abandonne la place d'autorité que Dieu lui a donnée. Dans de telles circonstances, peut-il s'étonner si ni Dieu ni l'homme ne l'écoutent? Quant à la femme, si elle prie ou prophétise la tête non couverte, elle professe exprimer sa place de dépendance de Dieu ou venir de la part de Dieu, et en même temps, elle abandonne la place de sujétion où Dieu l'a placée. Dans les deux cas, ils se sont déshonorés, car quiconque est hors de sa place est déshonoré devant Dieu. La femme découverte prend pratiquement la place d'un homme qui a la tête rasée. Le fait qu'il soit honteux pour une femme d'avoir la tête rasée devrait l'enseigner à se couvrir. Verset 7. Citation de l'Écriture. Car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu ne doit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme. Fin de citation. L'apôtre nous donne alors la raison de l'ordre de création. L'homme a été établi dans la création pour exercer la domination comme représentant de Dieu sur la terre et, comme tel, sa responsabilité était de maintenir l'autorité. En exerçant sa responsabilité, il glorifie Dieu. La femme, en gardant sa place de sujétion, est pour la gloire de l'homme. Versets 8 à 10. Citation de l'Écriture. Car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Fin de citation. L'apôtre nous rappelle que la femme venait de l'homme et était pour l'homme. Pour cette raison, la femme doit porter sur sa tête ce qui est le signe qu'il y a une autorité sur elle, de sorte qu'un témoignage soit rendu, non seulement devant les hommes, mais devant les anges, qui sont des spectateurs intéressés de l'ordre de Dieu dans la création, autant que de la sagesse de ses voix dans l'Église. Voir 1 Corinthiens 4, verset 9 et Éphésiens 3, verset 10. Versets 11 et 12. Citation de l'Écriture. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Car comme la femme procède de l'homme, ainsi aussi l'homme est par la femme. Mais toute chose procède de Dieu. Fin de citation. Néanmoins, cette question d'autorité et de sujétion, dans l'ordre de la création, n'affaiblit aucunement le fait que l'homme et la femme sont dépendants l'un de l'autre. Une dépendance mutuelle qui doit être vécue dans le Seigneur. Dans le monde, les hommes et les femmes rejettent leur sujétion à Dieu et cherchent donc de plus en plus à être indépendants l'un de l'autre. Dans le christianisme, nous sommes ramenés à dépendre du Seigneur et donc l'un de l'autre et à reconnaître que toutes choses sont de Dieu. Comment pouvons-nous être indépendants de celui dont nous tirons notre origine? Versets 13 à 15. Référence à la nature. Citation de l'Écriture. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui? Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Fin de citation. L'apôtre, après avoir affirmé l'ordre de la création, en appelle maintenant à la nature pour y apprendre ce qui est convenable. Dans la mesure où les longs cheveux de la femme lui donnent de quoi se couvrir naturellement, la nature indique sa place de sujétion et nous dit qu'une femme cachée est une femme belle. Tandis qu'une femme qui coupe ses cheveux et imite l'homme est méprisée par tous. De même, un homme aux cheveux longs apporte la honte sur lui. Verset 16. Référence à la coutume. Citation de l'Écriture. Mais si quelqu'un paraît vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. Fin de citation. Finalement, l'apôtre invoque la coutume. Si quelqu'un veut contester, il est seul à soutenir un jugement contraire à la coutume des assemblées. Ainsi, même la coutume, quand aucun principe n'est en jeu, peut être invoqué pour le maintien de l'ordre. Le mépris de la coutume peut montrer, comme quelqu'un l'a dit, ni de la conscience, ni de la spiritualité, mais un amour charnel de se différencier des autres et, au fond, de la vanité à l'état pur. L'apôtre a ainsi parlé de ce qui est vrai dans la création, versets 3 à 10, de ce qui est juste dans le Seigneur, versets 11 et 12, de ce qui est bienséant selon la nature, versets 13 à 15, et de ce qui est permis selon la coutume, verset 16, afin de montrer la véritable position de l'homme et de la femme l'un par rapport à l'autre. Dans la section qui suit, l'apôtre se met à parler du maintien de l'ordre de Dieu lorsque le peuple de Dieu est réuni en assemblée, ce à quoi l'ordre de la création nous a préparés. Dans les versets 17 à 34, jusqu'à la fin du chapitre, nous avons le maintien de l'ordre de Dieu dans les réunions. Versets 17 à 19, désordre dans les réunions. Citation de l'Écriture. Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas. C'est que vous vous réunissez non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous. Fin de citation. Hélas, il y avait un désordre si grave dans l'assemblée à Corinthe que la fête du souvenir, qui aurait dû être une occasion de bénédiction, était devenue l'occasion d'attirer sur eux les voix de Dieu en gouvernement. Le fait de se réunir n'était pas pour le meilleur, mais pour le pire. Il y avait des divisions, des schismes, des hérésies, des sectes. Tout d'abord, la réunion en assemblée chez les Corinthiens, au lieu d'exprimer l'unité comme membre du seul corps, comme l'exprime le seul pain, ne faisait que manifester l'esprit de division qui existait parmi eux. Il y avait des divisions, ou schismes parmi eux, verset 18, qui menaient à ce que des hérésies, ou sectes, soient formées dans l'assemblée, verset 19. Les deux mots sont distincts et sont porteurs d'idées différentes. La division, ou schisme, est une différence d'opinion, de pensée et de sentiment au sein de l'assemblée. Une hérésie est une secte ou partie formée parmi les saints pour maintenir une opinion particulière ou pour suivre un docteur favori. À Corinthe, il apparaît qu'on trouvait les deux au sein de l'assemblée. Mais la division ou schisme à l'intérieur, si elle n'est pas jugée, conduit rapidement à une hérésie ou secte au dehors, ou même à l'éclatement complet de l'assemblée en différentes sectes. L'état de l'assemblée était devenu apparemment si mauvais que Dieu avait permis que ces divisions évoluent en sectes ou parties afin de rendre manifeste ceux qui tenaient pour la vérité et qui sont appelés ici les approuvés. Verset 19. Le mal avait atteint tel niveau qu'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir un témoignage pour la vérité. Il était nécessaire de permettre au mal de se déclarer afin que la vérité soit manifestée. Voir Tite 3, verset 10, où l'hérétique ou sectaire doit être rejeté. Versets 20 à 22. Citation de l'Écriture. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Fin de citation. Quand ils se réunissaient, c'était théoriquement pour manger la scène du Seigneur. En pratique, c'était pour festoyer. L'apôtre dit « Chacun prend son propre souper ». La scène, ou souper, fut instituée par le Seigneur à la fin de la fête de la Pâque. Les Corinthiens, prenant apparemment cela en exemple, se réunissaient pour une fête sociale préliminaire, à la fin de laquelle ils participaient à la scène du Seigneur. En outre, à cette fête préliminaire, on laissait les pauvres avoir faim, alors que certains buvaient à l'excès. Or, indépendamment de ces excès, l'assemblée n'est pas un lieu pour une fête sociale. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Demande l'apôtre. Ou faites-vous honte aux pauvres et méprisez-vous l'assemblée de Dieu, qui comprend riches et pauvres? Pour la deuxième fois, l'apôtre doit dire « Je ne vous loue pas ». Le fait qu'il se souvenait de l'apôtre et tenait compte de ses enseignements, voilà qui faisait naître sa louange. Verset 2. Quant à leur division et abus de la scène du Seigneur, ils ne pouvaient que les condamner. Ils introduisaient dans l'assemblée l'élément social qui conduit à des distinctions sociales et à la satisfaction de la chair. Leur réunion était ainsi la négation pratique à la fois de la scène du Seigneur et de l'assemblée de Dieu. Versets 23 à 27. la scène. Citation de l'Écriture. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi, après le souper, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. » Fin de citation. Pour corriger ces scandales, l'apôtre met en avant la vérité de la scène telle qu'instituée par le Seigneur et selon qu'elle lui avait été révélée à lui, Paul. On a souligné que l'apôtre n'a pas eu de révélation particulière quant au baptême, qui est une affaire individuelle. Avec la scène, on trouve toutes les grandes vérités qui se rattachent au seul corps. Elles ont été spécialement données à Paul pour les faire connaître. Bien que la scène ait été donnée aux 12, ce n'était pas d'eux que Paul a reçu sa connaissance de la scène, mais par révélation spéciale du Seigneur pour être communiquée aux croyants des nations, non juifs. L'apôtre nous rappelle les circonstances touchantes au cours desquelles le Seigneur a institué la scène. C'était la nuit qu'il fut livré, la nuit même où le mal de l'homme a atteint son sommet. L'amour désintéressé de Christ s'est déployé de manière très bénie. Quand la convoitise conduisait à la trahison, l'amour instituait la scène. Aucun mystère n'entoure cette fête, tandis que les hommes aiment à en mettre dedans. Tout y est simplicité. C'est le mémorial simple mais touchant de la mort de Christ. Le pain parle de son corps, de lui-même, verset 24. La coupe parle de son sang, de son œuvre, verset 25. Les symboles du corps et du sang sont séparés, parlant d'un Christ mort. Tant le pain que la coupe sont à prendre en mémoire de moi, dit le Seigneur. Cela donne à la scène son caractère distinctif. C'est un repas de souvenir, non pas une célébration de quelque chose qui existe au moment où on l'apprend, mais le souvenir de quelque chose du passé. Quelqu'un a dit « La scène doit nous rappeler Christ et sa mort, non pas nos péchés, mais nos péchés remis et nous-mêmes aimés. » La coupe est la nouvelle alliance dans le sang de Christ, verset 25. Non pas l'ancienne alliance scellée par le sang de taureaux et de boucs, mais la nouvelle alliance avec toutes ses bénédictions garanties par le sang de Christ. Une alliance qui fait connaître Dieu en grâce et dans laquelle on ne se souvient plus de nos péchés. En mangeant le pain et en buvant la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cette parole réfute ceux qui, pour quelque raison que ce soit, soutiennent que la scène n'est plus à pratiquer. La fête ne doit jamais être mise de côté jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. Après avoir rappelé aux frères le vrai caractère de la scène, l'apôtre revient sur les scandales qui se passaient parmi eux et les met en garde contre le fait de participer à la scène d'une manière indigne. Ils mangeaient indignement dans la mesure où ils prenaient la scène sans juger leur voix et sans discerner ce dont parlent le pain et la coupe, le corps et le sang du Seigneur. Ils ne faisaient pas de distinction entre un repas ordinaire et ce qui était un mémorial du corps du Seigneur donné pour nous et de son sang versé pour nous. Versets 28 à 34. Remède et avertissement. Versets 28 et 29. Jugement de soi-même. Citation de l'Écriture. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Fin de citation. Pour corriger leurs voies indignes, l'apôtre exhorte chacun à s'éprouver soi-même, et ainsi à manger. S'éprouver soi-même, c'est le jugement de soi-même, de tout ce qui est incompatible avec la mort de Christ. C'est un acte individuel. S'étant éprouvé soi-même, on ne doit pas s'abstenir de la scène. Au contraire, il est dit qu'il mange. Nous sommes donc mis en garde contre le fait de participer d'une manière indigne. Dans la version Darby, la fin du verset 29 dit « ne distinguant pas le corps ». Dans d'autres versions, il est dit « ne distinguant pas le corps du Seigneur ». Ces mots « du Seigneur » doivent être omis. Le corps, dans ce verset 29, se réfère probablement au seul corps dont tous les chrétiens sont membres, tandis qu'au verset 27 qui précède, le corps, en vue, est le corps réel du Seigneur. Nous devons donc nous rappeler que les désordres à Corinthe mettaient de côté à la fois la scène du Seigneur et l'assemblée. Versets 30 à 32, châtiment. Citation de l'Écriture. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Fin de citation. Les désordres existants parmi les croyants à Corinthe avaient amené la main du Seigneur en châtiment sur l'assemblée. Comme résultat direct de ce châtiment, beaucoup étaient faibles et malades, et un grand nombre dormaient. Par la mort, ils avaient été ôtés de l'assemblée sur la terre. Cela conduit l'apôtre à affirmer le principe important que, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est non seulement nos voix que nous avons besoin de juger, mais aussi nous-mêmes, les motifs secrets, les pensées, les affections qui forment la condition de l'âme. Si nous refusons de nous juger, nous nous plaçons sous le châtiment du Seigneur. Mais même ainsi, c'est la grâce qui nous châtie dans le présent, plutôt que de nous condamner comme pécheurs avec le monde dans le futur. Au cours de l'épître, il y a une progression solennelle dans les avertissements de l'apôtre. Au chapitre 8, verset 12, nous sommes avertis de ne pas blesser les consciences de nos frères et donc de ne pas pécher contre Christ. Au chapitre 9, verset 27, nous sommes avertis de mortifier et asservir le corps de peur qu'après avoir prêché à d'autres, nous soyons nous-mêmes réprouvés. Au chapitre 10, verset 22, l'avertissement est à prendre en compte pour ne pas provoquer le Seigneur à la jalousie. C'est une chose solennelle d'ignorer les consciences d'un de nos frères, mais ce peut être une chose fatale de provoquer la jalousie du Seigneur. C'est ce dont certains firent l'expérience à Corinthe, car au chapitre 11, nous lisons que le Seigneur, ayant été provoqué à la jalousie, a agi pour sa propre gloire, ce qui a eu pour résultat qu'un grand nombre ont été ôtés par la mort. Versets 33 et 34. Citation de l'Écriture. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. Fin de citation. Il est solennel de se rendre compte que bien des désordres graves de Corinthe n'ont pas lieu dans la chrétienté d'aujourd'hui, non pas parce que l'ordre de Dieu est suivi, mais parce que la chrétienté a entièrement changé le vrai caractère de la scène et a introduit un ordre conçu par l'homme. À Corinthe, il y avait des abus scandaleux dans la participation effective à la scène. Néanmoins, il n'avait pas perdu sa signification ni changé son caractère. La chrétienté a certes supprimé certains abus grossiers, mais elle a perdu le vrai sens de ce à quoi s'attachaient les abus. Si mauvais que fut le mal à Corinthe, celui de la chrétienté est bien pire. Elle a changé la scène avec le mémorial en un moyen de grâce. La fête dont le Seigneur a pu dire « Faites ceci en mémoire de moi », on y participe dans l'espoir de recevoir quelques bénédictions pour soi. La scène qui apporte à son cœur devient l'occasion de demander de la grâce pour nos âmes. Pire encore, le repas du souvenir pour les saints a été transformé en une ordonnance de salut pour les pécheurs. En outre, en cherchant à corriger la manière indigne de participer à la scène, la chrétienté y a admis des gens indignes. Les églises nationales ne peuvent pas exclure de la scène les paroissiens non régénérés. Le monde est libre de participer avec le vrai croyant. En outre, non seulement la chrétienté a entièrement altéré le caractère de la scène, mais elle a aussi établi son propre ordre dans la manière de la pratiquer. En général, nul autre qu'un prêtre officiel, humainement autorisé, ne peut administrer la scène. Il est frappant de constater que, dans cette épître même, qui plus que tout autre parle de l'ordre de Dieu pour l'assemblée, il n'y a aucune mention de diacre, d'ancien ou d'évêque. Dans le chapitre même, qui traite d'irrégularités grossières, il n'y a aucune suggestion de les corriger en nommant un officiant pour administrer la scène. Le vrai caractère de la scène est donné. Il est insisté sur la condition convenable de l'âme, mais quant à l'administration de la scène, tout est laissé à la libre direction, sans contrainte, du Saint-Esprit. Dans le chapitre 12 qui suit, nous sommes instruits quant à cette manifestation de l'Esprit dans l'Assemblée.